This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
On your marks.
Salut à tous, c'est l'heure olympique, votre podcast quotidien pendant les JO de Tokyo, une journée marquée par la victoire de Jean Quiquempoix au pistolet à 25 mètres. Je suis Adrien Yo et pour commenter l'actu des Jeux, Maxime Dupuis et Simon Farvac sont à mes côtés. Salut les gars, une nouvelle médaille d'or pour la délégation française, ça fait plaisir.
Salut. Ouais, ça fait plaisir. C'était une médaille qui arrivait très tôt ce matin sur les coups de 8h. Je peux dire que la rédaction a vibré devant cette épreuve. Alors la petite question qu'on se posait, c'était au niveau de l'impression télégénique, c'est-à-dire qu'on voit jamais les cibles et tout ça. Donc c'est un peu un drôle de suspense d'attendre justement les points. Mais c'était formidable. Voilà, c'est un grand moment. On espérait en vivre d'autres. Des grands avec Aït Saïd évidemment aux anneaux. Malheureusement, il était blessé. Ça s'est pas bien passé. Donc c'était le petit bonheur en matinale, enfin le grand bonheur, parce qu'une médaille d'or, c'est la sixième, ça fait plaisir, 23 médailles pour l'équipe de France qui est septième, et je crois savoir, Adrien, que ce sera un des sujets de l'émission.
Exactement, on débutera avec cette question qui fâche, la France est-elle à sa place au tableau des médailles? Puis ensuite nous recevons Sarah Léonie Sizik, double médaillée au judo, et puis la triple affiche de mardi avec trois finales en athlétisme dont on a envie de vous parler, l'heure olympique, c'est parti. La question qui fâche aujourd'hui, la France est-elle à sa place au tableau des médailles? Ça fait un tout petit peu plus d'une semaine que les Jeux Olympiques ont débuté. La France est septième au tableau des médailles, 6 médailles d'or, 10 médailles d'argent, 7 médailles de bronze, ce qui porte le total à 23 médailles. Alors messieurs, septième, c'est bien, on peut faire mieux, on peut faire moins bien. Maxime?
Mieux, je sais pas. Si, mieux, on peut toujours faire mieux, moins bien aussi. Donc je vais dire que je pense que quand même globalement, on est à notre place. Si je ne m'abuse, septième, c'est la place qu'on avait à Londres et à Rio. Donc voilà, après, ça cache des réalités différentes au niveau du nombre de médailles, parce qu'on sait que le tableau des médailles est constitué par les médailles d'or en priorité. Donc plus vous avez de titres olympiques, par l'absurde, si vous avez 10 titres olympiques et rien d'autre, vous serez très, très bien classé. Or, la France en a 6, qui est pas mal, voilà. Mmh. Et donc, ce qui permet d'être à cette septième place. Voilà, je trouve que c'est la place de l'équipe de France. Maintenant, moi, ce qui m'embête plus, je vais réfléchir en nombre de médailles, c'est l'objectif de la petite quarantaine, des 40, de passer cette barre comme à Rio. Mm-hmm. Je pense que ça va être quand même compliqué. Il en manque 17. Alors évidemment, il y a les sport co qui sont là. Ce n'était pas le cas toujours auparavant. Là, on a quand même 5 équipes qualifiées pour les quarts, donc potentiellement 5 chances de médailles, même si elles ne sont pas équivalentes. En athlé, j'ai peur que ce soit difficile, on en reparlera tout à l'heure. Il manque ce petit boost, comme on a vu avec la boxe, cet énorme boost en 2016 avec les 6 médailles. Mais je pense que globalement, on est à notre place, parce que quand on regarde les nations qui sont devant nous, États-Unis, Chine, Japon, Japon qui profite aussi de l'effet JO, l'effet domicile qui est évident et du travail qui a été fait autour, la Grande-Bretagne qui fait un travail formidable depuis qu'elle a obtenu les Jeux en 2012 et qui a mis, j'espère qu'on prend un peu exemple sur les Grands Bretons là-dessus, parce que ce qui nous attend dans 3 ans, il ne va pas falloir se rater, on en reparlera peut-être un peu après. Et il me semble qu'on a les Russes, le comité olympique.
Les Russes et l'Australie, voilà.
L'Australie, voilà. C'est des nations qui sont fortes. Les Australiens qui ont fait des formidables Jeux de Sydney à 2000, ça a aussi entraîné le tout. Et les Russes, alors les Russes, il y aurait peut-être à dire au niveau des conditions de leur retour, mais en tout cas, il n'y a rien d'illogique à être derrière eux. Si j'avais un petit regret, mais peut-être qu'on le gommera dans 3 ans, c'est la Grande-Bretagne, évidemment. Parce que
la Grande-Bretagne qui a 11 médailles d'or déjà, c'est-à-dire qu'ils sont à 5 médailles d'or devant nous. Soyons honnêtes, c'est difficile d'aller les chercher. Simon ?
Moi, je pense que la question qui pourrait éventuellement fâcher, c'est à quel point c'est problématique ou non de se reposer à ce point-là sur deux disciplines, par exemple. Là, on voit que la délégation française est portée par l'escrime et le judo. C'est pas une tare d'avoir des spécialités, mais imaginons que ça se passe mal en judo, le bilan serait famélique. C'est peut-être plutôt ça qui m'interroge, moi, quand je regarde le bilan global de l'équipe de France, qui, comme le disait Maxime, est plutôt correct. En tout cas, c'est peu ou prou ce à quoi on s'attendait.
On pourrait se satisfaire de cette place, même si on n'atteint pas les 40 médailles. Si on arrive à maintenir cette 7e place, on se dira la France a réussi ses Jeux.
Je ne vais pas parler pour Laurent Vergne qui n'est pas là aujourd'hui, mais je pense qu'il est très attaché au classement des nations qui, pour lui, dit plus de choses. C'est difficile à dire parce qu'encore une fois, est-ce qu'on juge le nombre de titres olympiques? Si on termine avec 10 titres olympiques, ce ne sera pas de mauvais jeu. Évidemment, 10 titres olympiques, c'est très bien. Et c'est encore possible. On a fait sur le site, il y a une liste de chercheurs d'or éventuels. On en avait une petite dizaine. Donc, alors, bon, Aït Saïd et pour la lutte, c'est terminé. Mais il y a encore ces possibilités-là, donc c'est très possible. Après, 10 titres olympiques avec 32 médailles, est-ce que c'est mieux que 8 titres olympiques avec 42 médailles? C'est compliqué, voilà. Encore une fois, le titre olympique pèse lourd, mais ce qui m'embêterait, en fait, pour faire simple, c'est qu'il y ait un recul 3 ans avant les Jeux de Paris. Voilà. Parce qu'on le sait, l'objectif qui a été donné quand les Jeux de Paris ont été attribués à la France, c'est de taper les 80 médailles. Or, 80 médailles, je n'ai pas la marque en tête. Et je pense qu'on a pu faire ça depuis les Jeux, justement, je pense, les Jeux de Paris du début du siècle. Voilà. Mm-hmm. Donc, en gros, il faudra vérifier une centaine de médailles. Donc, voilà, dans l'ère moderne, ça n'existe pas, l'équipe de France, à ce niveau de médailles. Il faut se rappeler que, on va dire, le rebond français sur les médailles, c'est à partir de Barcelone en 92, 29 médailles. Après, ça commence à être très sérieux. Mais avant ça, il n'y a pas 80 médailles. Là, c'est doublé ce qu'on avait fait à Rio. Et je n'ai pas envie qu'on arrive à Paris en se disant « mais qu'est-ce qu'on a fait pour ça ?» Je parlais tout à l'heure des Anglais, ce qu'ils ont mis en place, les Britanniques, ce qu'ils ont mis en place avant les Jeux de Londres. C'était vraiment un truc très professionnalisé. Et honnêtement, alors peut-être que le CNOSF, le monde olympique, ne communique pas assez là-dessus, mais pour l'instant, je ne sais pas exactement ce qui est mis en place pour arriver à ça, parce qu'on ne fera pas 80 médailles en claquant des doigts. On fera un surplus de médailles potentielles parce que c'est l'effet domicile et ça joue. Il y a une espèce d'adrénaline, quelque chose qui ne s'explique pas. Regardez les mondiaux de Paris en 2003 d'athlétisme, c'est exactement ça. Maintenant, ce qui m'embêterait, encore une fois, pour faire la boucle, c'est de reculer alors que dans 3 ans, il y a les Jeux. Et c'est
il va falloir être...
3 ans, ce n'est pas 4 ans.
Non, il va falloir voilà, être bon sur ces fins de jeu parce qu'on est 7e. Avec 6 médailles d'or, l'Allemagne 8e, 6 médailles d'or, la Corée du Sud 9e, 6 médailles d'or, et derrière il y a les Pays-Bas à 5, l'Italie à 4. C'est-à-dire que une médaille de plus pour l'Allemagne, la Corée, on dégringole d'une ou deux, un ou deux rangs. Donc,
je laisse la parole à Simon, je suis derrière, mais regarde l'Italie, le cas de l'Italie.
Ah oui.
Ils sont derrière nous, je crois qu'ils ont 4 titres.
Ils ont 4 titres, 9 titres. Médailles d'argent et 15 médailles de bronze, ils sont à 28 médailles.
Dont la hauteur et le 100 mètres. Donc voilà, est-ce qu'ils font des plus mauvais jeux que nous?
Non.
Enfin, des moins bons jeux que nous, parce que c'est quand même des très bons jeux pour nous. Voilà. Mm-hmm. Je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est toujours l'ambiguïté du tableau des médailles.
Mais alors, où est-ce qu'on peut aller chercher encore quelques titres pour assurer, entre guillemets, cette 7e place, Simon?
Juste pour revenir sur l'Italie, comme l'évoquait Maxime, il y a aussi le poids des médailles. Et on parle beaucoup de chiffres, mais il y a aussi le poids des émotions. Est-ce qu'on retiendra ce qu'a vécu l'Italie en 5-10 minutes? Les Jeux sont presque réussis juste grâce à ça. On l'a vu avec les commentaires autour des comparaisons avec le foot, etc. Il y a des choses comme ça imperceptibles, mais en tout cas, qu'on ne peut pas quantifier et qui ne se verront pas dans le tableau des médailles et qu'il ne faudra pas non plus, occulter. Dans le même genre, sur l'intensité, le titre en judo sur la terre du judo au Japon, le titre par équipe, c'était un moment qui met les poils comme pas possible. Et donc, il ne faut pas non plus complètement mettre de côté cet aspect émotion.
Non, on en veut plus. Non, mais on en veut plus. 6, c'est bien.
Ça n'empêche pas d'en vouloir encore plus, c'est sûr. C'est sûr. Mais comme tu dis, c'est vrai que la course s'annonce tendue si on revient sur cet aspect mathématique, parce que la magie qu'a vécu l'Italie, les autres nations, nous aussi, peuvent le vivre. Et on peut se retrouver 10e en un claquement de doigts, entre guillemets.
Ouais, voilà, il n'y en a pas de marge derrière, en fait, c'est ça, c'est que derrière, ça peut remonter, il y a 2 titres d'écart, on pourrait très bien sortir du top 10. Pékin, on était 10e nation, pas beaucoup de titres olympiques, il faut, voilà, 3 ans avant Paris, ça ferait un petit peu désordre de reculer, parce qu'encore une fois, je le répète, c'est 3 ans, ça va venir très, 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 très vite, les Jeux de Paris.
Avant de finir, messieurs, mouillez-vous, où est-ce qu'on va aller chercher ces quelques titres qui vont nous permettre de rester à cette place? Allez, Maxime.
Moi, j'ai envie d'avoir confiance dans nos handballeurs. Voilà, j'ai l'impression qu'ils sont très, très bien. Alors, évidemment, il y a eu des petits coups durs du week-end. Mais j'ai envie de croire que les handballeurs vont aller chercher le titre olympique. Ça me ferait extrêmement plaisir. Les basketteurs, j'aimerais beaucoup. Ça voudrait dire probablement qu'il faut taper les Américains une deuxième fois. Alors là, ce serait exceptionnel.
Troisième fois de suite.
On aurait le moment d'émotion dont parlait Simon.
Ouais, là, on l'aurait. Déjà, on l'a eu au premier match. Mais alors là, le refaire en finale, ce serait assez fantastique. On a Benjamin Thomas. Pourquoi pas. Voilà, on a encore une petite dizaine de chances. Enfin, ou une petite dizaine. Kevin Mayer, j'ai un petit doute, mais j'aimerais beaucoup. Voilà,
Simon,
ça va être.
Simon,
ça va
dis-nous être... où tu le vois, où tu vois une médaille d'or en plus.
Moi, j'attendrais justement beaucoup Kevin Mayer. En tout cas, le décathlon, on parle souvent de la discipline reine de l'athlète avec le 100 mètres. Et c'est vrai qu'en termes de standing, à mon avis, ça l'est. Mais par contre, en termes de performance, en termes de ce que ça peut nous faire ressentir nous-mêmes, rien qu'en en se projetant, en s'imaginant avoir une telle polyvalence, c'est le décathlon, je pense, que je vais suivre plus particulièrement avec un espoir d'or très sérieux pour la délégation française avec Kevin Mayer.
Et c'est le décathlon, c'est mercredi et jeudi d'ailleurs. Ça va être les grands temps forts. Exactement. De l'athlète sur cette deuxième. On a aussi Marc-Antoine Olivier en natation en eau libre. Mm-hmm. Une vraie chance. Voilà. Donc, encore une fois, on ne noircit pas le tableau. Il y a encore au moins, on va dire, autour de 7-8 chances réelles, hors surprise, de médaille d'or. Donc, si ça rigole bien, ça peut se finir à 11 titres olympiques, par exemple, et l'équipe de France sera bien à l'aise à cette place. Mais je ne pense pas qu'elle gagnera une place de plus. Septième, je pense que c'est le niveau des Bleus.
Très bien, messieurs, merci pour vos analyses. Et on passe tout de suite à notre séquence Retour de Tokyo. Dans Retour de Tokyo aujourd'hui, on fait encore plus fort que les autres jours. On a déjà reçu une médaille d'argent avec Isaor Atibus, un champion olympique avec Romain Cannon. Là, on reçoit une double médaillée olympique, or et argent autour du cou, la judokate Sarah Léonie Sizi qui est avec nous. Salut Sarah Léonie.
Salut.
Ça pèse pas trop lourd autour du cou, les deux médailles ?
Si, 1 kg quand même.
Faut pas te faire mal au cervical quand même, ce serait dommage.
Non, en effet.
On t'imagine encore sur ton petit nuage quelques jours après ces beaux combats, cette semaine olympique qui s'est terminée en apothéose avec cette médaille d'or que vous avez remportée au tournoi par équipe mixte.
Oui, on est vraiment tous sur un petit nuage. On est tellement contents et fiers de nous que franchement, là, on va être sur ce nuage pendant très longtemps.
Raphaël, toi qui as suivi, est-ce que tu t'attendais à ce que Sarah Léonie, tout simplement, revienne avec ses deux médailles ?
Alors, en individuel, j'y croyais franchement. Et même si, bon, évidemment, la finale laisse quelques regrets, on ne peut pas ressasser les souvenirs. Mais oui, je savais que Sarah Léonie avait vraiment les moyens d'aller sur ce podium olympique. Donc ça, c'était une vraie satisfaction. Et pour l'équipe également, il y avait un vrai potentiel. Et voilà, donc on était très ravis de ces performances-là. Et j'avais une question d'ailleurs à Sarah Léonie, pour Sarah Léonie, pardon. Donc au moment où tu montes sur le tapis en finale de l'épreuve par équipe, tu te retrouves face à Yoshida, que tu connais un petit peu, que tu as déjà appris par exemple au Masters de Doha sur laquelle tu avais perdu. Est-ce que tu penses à tout ça à ce moment-là, ou est-ce que tu es vraiment focus sur le côté c'est l'équipe, on commence pas à se poser des questions sur l'adversaire?
Non, quand je monte sur le tapis, je me suis dit bon, tu la connais, tu connais tes schémas, là ça va jouer au mental et ça va jouer vraiment à pas grand chose. Et c'est vrai que je l'avais déjà pris, mais c'est deux combats bien différents. Un qui était très rapide et l'autre un beaucoup plus long. Donc, dans ma tête, vraiment, je pensais à l'équipe et je me suis dit, là, tu n'as pas le droit à l'erreur, vraiment. Donc, donne tout. Vraiment, donne tout et lâche-toi, quoi.
Vas-y, Maxime.
Ouais, Raphaël ne voulait pas ressasser, mais il faut quand même en parler. Et comment on se relève d'une déception comme ça, justement ? Est-ce que c'est un travail mental seul ou est-ce que, évidemment, il y a beaucoup de l'équipe derrière qui aide à se relever de ce qui t'est arrivé en finale en individuel?
On rappelle que tu as été disqualifié pour avoir pris appui sur ta tête, ce qui est interdit au judo, et du coup tu as malheureusement été disqualifié, tu as pris seulement la médaille d'argent.
Oui, ce qui est arrivé, c'est sûr que c'est quelque chose qui est encore là dans ma tête et qui je pense ne peut partir maintenant, parce que pour moi ça reste quand même toujours une injustice. Et je suis un peu dégoûtée d'avoir payé pour une faute que je n'ai pas faite. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ma médaille, je me suis dit, mais t'es quand même vice-championne olympique, donc c'est pas rien. Et pour mes premiers jeux, vraiment, même si je m'attendais à la médaille d'or, je n'ai pas du tout repoussé cette médaille. Au contraire, je vais l'accueillir bras ouverts et je me dis que c'était vraiment pas. C'est pas comme si j'étais tombée vraiment et que j'avais perdu. Elle m'avait vraiment dominé tout le match. Donc vraiment, je me dis que c'est que du plus pour la suite et j'ai hâte de Paris 2024.
Et ça t'a nourri justement cette injustice pour l'équipe, pas pour l'épreuve par équipe?
Oui, c'est sûr que moi j'ai toujours dit que j'adorais les épreuves par équipe parce qu'on était vraiment tous ensemble très soudés et que l'énergie qui s'en dégageait était vraiment puissante, en tout cas pour l'équipe de France. Et donc oui, j'avais hâte vraiment de combattre. Comme j'ai dit, même après ma compète, j'aurais pu recombattre le jour d'après pour repartir pour les équipes. Donc oui, c'est sûr que ça m'a nourri, ça m'a donné une force en plus.
On a aussi... Vas-y, Raphaël, si tu veux poser une question.
Non, j'ai une autre question un peu plus générale sur ces Jeux Olympiques. Alors toi, ta compète individuelle, c'était lundi dernier. L'épreuve par équipe, c'était samedi. Et qu'est-ce que tu fais entre-temps sur les journées suivantes? Tu vas encourager les copains, les copines? Comment ça se passe?
Oui, ça s'est un peu passé comme ça. La journée du mardi, j'ai un peu fait les soins parce que du coup, avec mon cou, ma hanche et mon doigt et un peu tout, tous les membres de mon corps, c'était surtout un peu de la récup. Mais l'après-midi, je suis allée voir du coup mes copines qui combattaient, Clarisse. Et le jour d'après, ça a été courir, faire un peu de sport pour toujours rester dans le jeu et pas tomber dans les courbatures vraiment qui nous empêchent de bouger et encourager. Vraiment, ça a été ça toute la semaine. Et du coup, le vendredi soir, la pesée pour les équipes.
Il y a une image, j'aimerais revenir rapidement dessus. J'imagine qu'on t'en parle énormément. Quand Teddy Riner gagne son combat, c'est toi qui dois apporter le point décisif à l'équipe. Et là, on le voit, il prend ta tête avec ses mains. Il te dit quelque chose, il te pose un baiser sur le front. À ce moment-là, c'est quoi ces mots d'encouragement?
C'est vrai que j'ai été surprise, mais dans un sens, ça ne m'a pas vraiment... Ça m'a pas vraiment surpris parce que c'était aussi... on était tellement contents, on voulait tellement aller chercher cette médaille qu'on s'est tous transmis cette énergie combat après combat en disant voilà, ça y est, j'ai gagné mon combat, c'est à toi maintenant, je te transmets cette énergie et ainsi de suite. Et c'est un peu ce qu'il m'a fait, il m'a dit vas-y, lâche-toi, c'est ton combat, c'est ton moment et fais-le pour nous, pour l'équipe. Et il m'a transmis cette énergie, vraiment cette force dont on avait tous besoin pour aller chercher cette médaille.
J'imagine que le moment où tu comprends que tu as gagné, que tu apportes ce point décisif, ça doit être, au fond de soi, ça doit être incroyable, la sensation.
C'est vraiment... Des fois, on dit que les sportifs, ils sont drogués à cause de l'adrénaline qu'on a quand on combat. Et vraiment, c'est cette joie, vraiment, quand j'ai vu le décompte sur 0-0 et que vraiment on voulait d'être champion olympique, c'était une joie mais immense, vraiment. Et je suis contente d'avoir quand même vécu ça parce que la frustration d'avoir perdu en finale, je ne l'ai pas vécu, de finir sur un combat gagné. Donc là, finir comme ça, c'était magistral et j'attendais ça vraiment avec impatience.
Ce sera encore plus beau à Paris.
Ah, ça, c'est sûr.
Toi, tu me fais dresser les poils, toi, là. C'est frisson, là, quand on en parle encore une fois.
On parle beaucoup du pendant, de l'avant, mais qu'est-ce qui se passe maintenant, à partir de maintenant, dans l'après-JO? Tu es revenu en France. Ça va être quoi dans les jours qui viennent? C'est du repos? C'est tout de suite reprise d'entraînement? Il y a une forme de décompression qui est inhérente à ce genre de compétition. Comment on gère ça aussi?
Alors, comment on le gère pour l'instant? Je ne sais pas, parce que ça n'est pas encore arrivé. Mais en tout cas, oui, c'est sûr. Là, j'ai hâte de rentrer chez moi pour montrer ma médaille à mes proches, à toutes les personnes à qui revient aussi ces deux médailles, pardon. Ma famille, mes amis, tout le staff et aussi mes clubs et mes collègues de travail. Et ensuite, oui, il va y avoir des vacances. L'entraînement, pas pour tout de suite. Bien sûr, je vais rester active. Je vais pas ne rien faire. Mais pour l'entraînement, pour l'instant, en tout cas, le judo, il va y avoir une petite coupure qui me fera bien du bien. Et oui, partir en vacances et revenir après à la rentrée.
Merci, Sarah Léonie, d'être passée dans l'Euro Olympique. C'était un super moment. Et puis, on te souhaite le meilleur pour la suite. Salut.
Merci beaucoup.
L'affiche du jour, on a choisi de vous parler de la journée d'athlétisme de mardi. Selon Maxime, ce sera la plus belle journée dans le stade olympique. Alors pourquoi? On a choisi trois belles finales, la perche, le 400 mètres masculin et le 200 mètres féminin. On va commencer dans l'ordre. La finale du 400 mètres, Maxime, il y a une densité incroyable.
Ouais, bah c'est la course pour moi la plus attendue de ces Jeux Olympiques. Alors vous allez me dire, après ce qu'on a vécu dimanche en une demi-heure entre le record du monde du triple saut féminin, la hauteur avec le partage du titre, le 100 mètres, ça va être compliqué de faire mieux. Bah, peut-être, mais je pense que ça peut être très très fort. Surtout en là, c'était vraiment en termes d'émotion et de performance. Là, je pense qu'on peut avoir des performances très fortes. Warhol mais le grand favori du 400 est face à Ray Benjamin. Ils sont deux à pouvoir glaner le titre. Les deux cette année ont couru, si je ne m'abuse, en 46-70, donc record du monde, le record du monde de Kevin Young qui est tombé, record du monde qui avait 29 ans. Warhol l'a battu dès sa première course à Oslo. Benjamin, je crois qu'il a couru en 46-83.
C'est ça, lors de la sélection US. Ouais.
Ce qui n'est pas rien, et c'était que 5 centièmes derrière l'ancien record du monde de l'araignée Young. Donc on a deux types qui se tiennent, on va dire, dans un mouchoir et qui vont se faire face dans une finale olympique sur une piste ultra rapide. Donc il y a à peu près tout réuni pour imaginer une course à la, pour les plus anciens, à la Bufford Batten en 95, record du monde du 400 mètres féminin. De mémoire, ils avaient battu toutes les deux le record du monde dans la même course. Je ne sais pas si on aura ça, mais on a peut-être vraiment un moment d'éternité et alors. Manque de peau pour nous, entre guillemets, bah, vous serez levé.
Ce sera la nuit.
C'est à 5h20, je crois.
Mais bien sûr, c'est à 5h20, mais c'est le réveil. On met son réveil.
Nos amis américains ont réussi à récupérer quelques finales la nuit. Au moins à Paris, j'espère qu'on réussira à gagner, à garder. On n'aura pas de problème avec ça, je suis bête. Parce que le matin, pour nous, il n'y aura pas de décalage. Moi, je suis complètement paumé. Mais en tout cas, oui, voilà. Mais je pense que c'est vraiment sur le papier, avant le début des JO, c'est la plus grosse finale sur le stade d'athlée.
Et moi, ce qui m'intéresse quand tu parles de ce duel, Maxime a annoncé entre Warhol et Benjamin, c'est qu'on en oublierait presque qu'il y a Samba qui, en 2018, il a couru en moins de 47 aussi, ce qui paraissait fou. Bon, là, il a eu quelques pépins physiques, il est un peu en dessous, mais même les temps qu'il fait aujourd'hui, c'est des temps qui sont des temps de champion olympique très régulièrement, il y a 10, 15, 20 ans. Quoi. Il y a aussi le Brésilien Dos Santos,
oui,
qui fait 47-31, qui bat son record en 2000, hein, qui est un jeune Brésilien de 21 ans gigantesque qui fait 2 mètres. Donc, on a presque envie de parler d'un duel, alors qu'en fait, si on élargit le spectre et qu'on prend 4-5 mecs, on reste sur une densité qui est presque encore plus excitante que ce duel-là, avec 4-5 gars qui, intrinsèquement, individuellement, si on se projette 10 ans en arrière, auraient été logiquement le favori ultime de la finale. Donc, ça rajoute encore une touche d'excitation avant ce grand rendez-vous. Et peut-être le seul truc qui pourrait manquer, à mon avis, c'est est-ce qu'il y a un gentil, est-ce qu'il y a un méchant parmi tout cela. C'est peut-être le truc qui empêche que ce soit un rendez-vous encore plus important, que ce soit le rendez-vous des Jeux, en fait.
Et puis c'est le 400 est, c'est moins, on va dire, bankable que le 100 mètres habituellement. Voilà, c'est une formidable discipline. Moi, c'est un de mes plus grands souvenirs olympiques, le record du monde de Kevin Young en 92. Lors de la finale que Diagana avait couru et terminé quatrième. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Mais en tout cas, je pense que ça peut vraiment faire une course folle. Évidemment, les deux sont couloirs 5 et 6, donc ils vont être côte-côte. Donc vraiment, tout est réuni pour avoir une course d'éternité. Je parierais pas forcément. On parie pas, on décrète pas les records du monde. Enfin, voilà quoi.
Ça pourrait s'en approcher. Très fort pour s'en approcher.
Au sujet de cette course, je pense qu'il faut aussi évoquer les avancées technologiques parce qu'on en parle beaucoup, des nouvelles pointes, etc. Ça joue forcément, c'est cette année que Warhol le bat, le record, même si ça fait plusieurs années qu'il tourne un peu autour. Mais il ne faut pas oublier donc que ça fait maintenant 3-4 ans que c'est la discipline où on est le plus impressionné par la densité d'athlètes qui ne sont pas loin du record. Et ça, c'était avant les pointes magiques. Enfin, et puis dans toutes les disciplines, les records ne tombent pas forcément. Donc, il y a un aspect technologique, à mon avis, mais il y a aussi, il faut garder conscience qu'il y a une génération exceptionnelle, particulièrement dans cette discipline aussi.
Pour en avoir parlé avec Stéphane Carrestan, il m'a dit que Warhol, au moment du record du monde, courait avec des pointes classiques. Donc c'est dire la marge de progression qu'il y a eu sur l'épreuve. Et vraiment, c'est un âge d'or du 400 mètres, ouais, assurément.
Donc il faut bien surveiller ça. 5h20, demain matin, ça peut tomber. Le record du monde. Quelques heures plus tard, à 12h20, la finale qui peut-être pour nous Français nous intéresse encore plus, la finale de la perche avec Renaud Lavillenie, avec aussi le champion olympique de Rio, Thiago Braz, avec Armand Duplantis, le phénomène suédois. Est-ce que Renaud peut faire quelque chose, peut faire quelque chose? Oui, aller chercher le titre, ce sera compliqué, Maxime?
J'aimerais. C'est difficile à dire. Je ne suis pas dans sa peau, je ne suis pas dans sa cheville. Il le dit depuis. Il faut savoir que c'est blessé donc 3 semaines avant le début des Jeux. 2 semaines d'ailleurs et 3 semaines avant le début de l'athlé. Une entorse à la cheville. Oui, c'est compliqué. À partir du moment où il s'est blessé, on savait qu'il ne viendrait pas à Tokyo à 100%. Son début de qualif a été compliqué. Premier saut de réglage, et puis après, deuxième saut raté, et puis troisième saut est passé. Comme il l'a dit, à un moment, je me suis vu dans l'avion. On a eu très peur pour lui. Et finalement, on a eu l'impression que ça allait de mieux en mieux au fil des tours. Voilà. Ouais. Là, il faudra faire pareil. Et ça va être très intéressant aussi comment il va gérer son concours demain. Parce que quand on est touché,
c'est peut-être plus d'impasse à faire. Quoi.
Et il y a plus d'impasse à faire. Et plus on fait d'impasse, plus on prend de risques. Donc voilà, moi je ne serais pas étonné qu'il fasse un concours très tactique, parce que justement, pour essayer de s'économiser, parce que de toute façon, ça va se jouer à des hauteurs. Au moins, le titre va se jouer très haut. Je ne sais pas si on aura un concours d'une densité telle que celui de Rio 2016, qui a laissé forcément des souvenirs un peu particuliers à Renaud Lavillenie, qui avait été un des plus beaux concours de la perche l'histoire des JO, voire même le plus beau, parce que c'était assez dingo. Et Braz avait aussi profité de cette journée de folie devant son public pour gagner le titre olympique. Mais en tout cas, je pense qu'on peut avoir un très beau concours, même si je pense que le titre… Alors, il ne faut jamais présager de rien en perche, parce qu'il y a toujours le risque du zéro sur les concours. Voilà. Boubka n'a gagné qu'une fois le titre olympique en perche. Ça dit aussi quelque chose de ce qu'est la perche et l'aléa de la perche. Maintenant, j'ai du mal à imaginer Mondo Duplantis ne pas être sacré demain, mais derrière, possiblement une troisième médaille pour Renaud Lavillenie.
Ce serait la marche des choses, entre guillemets, que Duplantis… Après avoir battu le record du monde mythique, enfin, avoir détrôné Lavillenie, voilà, finissent enfin par atteindre cet apogée.
Il a détrôné Boubka aussi en plein air, parce que maintenant les records ont été fusionnés. Mais c'est quand même intéressant de savoir qui a la meilleure référence, qui a la marque de référence en plein air. Et avec 6-15 l'an dernier, Duplantis l'a prise aussi. Effectivement, ça paraît d'une logique implacable, mais comme l'a dit Maxime, il y a beaucoup de risques dans les concours, plus peut-être même encore que dans les autres disciplines. Et ce qui m'avait intéressé l'an dernier, quand j'avais parlé avec Renaud Lavillenie en marge d'une émission sur Eurosport, de ses envies sur la fin de sa carrière, je lui avais dit, est-ce que ça titille de voir un jeune qui arrive comme ça, et on se dit, j'étais pas si loin il y a encore quelques années, j'avais le record, est-ce que je vais aller le chercher? Et il m'avait regardé en se disant, non, mais qui est complètement à côté, entre guillemets, du sujet. Moi, je ne vais pas faire 6-20 comme ça à mon âge. Je ne vais pas être dans la course au record, même dans la course à la régularité sur toute une saison avec Duplantis. Par contre, sur un jour, je peux le battre. Je sais que je peux le battre sur un jour, et c'est à ça que je m'accroche, sur un grand championnat, sur une journée comme ça un peu magique, sur une journée où lui, il est moins bien. C'est, à mon avis, ce qui fait que Lavillenie se lève tous les matins pour retourner à l'entraînement, c'est pour la finale qu'on va vivre dans quelques heures.
Ouais, et puis c'est exactement ça. C'est pas fin aussi leur relation, tout ça. Et c'est la grande confrérie des. C'est d'ailleurs bizarre. Enfin, c'est bizarre. Toujours étonnant de se dire qu'ils sont adversaires, mais il se passe quelque chose. Et c'est un truc global entre perchistes.
On l'a vu avec Kendricks d'ailleurs.
Ouais.
Il y a eu beaucoup de réactions quand Kendricks a dû déclarer forfait à cause du Covid. Alors après, évidemment, un tweet, c'est facile à publier, mais on n'a pas l'impression que ce soit du bluff, cette relation entre les perchistes. On a vraiment l'impression que cette confrérie, ils ne nous sortent pas ça sur un plateau pour les médias. Ils ont vraiment l'air proches, et ça contribue aussi à ce qu'on peut aimer dans ces concours quand en plus l'intensité augmente et qu'on sent une camaraderie et une rivalité qui se mélangent.
Et c'est un truc qui a toujours été, même avant Twitter. Donc, c'est vraiment, il y a quelque chose de particulier. Perchiste, en plus, c'est un groupe très resserré. C'est une super élite. Voilà. Et pour revenir à Duplantis, c'est le seul qui passe 6 mètres cette année en extérieur. Lavillenie, il l'avait fait en indoor. Il l'a passé 4 fois. Voilà. Alors, la question après, c'est est-ce que une fois qu'il aurait éventuellement assuré la victoire, est-ce qu'il ne va pas aller chercher une hauteur qui lui permettrait de battre le record du monde? Je serais étonné qu'il ne tente pas. S'il peut, évidemment, s'il s'y retrouve, parce que voilà, et ça ferait le doublé. Il n'y a pas eu de record du monde de la perche battue au jeu depuis 80. Donc, tant qu'à faire, la souris sur le gâteau, voilà. Mais je pense qu'on peut avoir un concours très sympa.
Est-ce qu'on pourrait avoir aussi une fin à l'image du saut en hauteur où on se dit, bon, allez, on arrête. Il y a 2 ou 3 champions olympiques. pour la confrérie, ça serait une image incroyable.
J'espère que ça ne fera pas jurisprudence. Après, c'est très personnel.
Ouais. Non.
On a pu apprécier ou non l'image. Mais j'aurais bien aimé quand même que les deux sauteurs se départagent. Et donc, effectivement, si ça arrive assez régulièrement, ça pourrait, à mon avis, être problématique. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc...
On se retrouvait dans la même situation avec la Villeni et Dupontis, je suis sûr qu'ils partagent.
Ah oui.
Tu penses?
Ah bah oui. C'est possible. Ah ouais, ce serait bizarre de dire, bah allez, on continue. Voilà. Mais encore une fois, je suis complètement d'accord avec toi, Simon. Je trouve que l'image était très sympa. Parce que, mais en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est surtout l'après, c'est-à-dire le moment où ils décident, OK, on se partage, et là, tout le monde tombe de joie. C'est formidable, mais c'est une belle image de l'Olympisme. Là.
Elle le restera à condition que ça ne devienne pas assez courant, etc.
Elle reste unique.
Ouais. Après, je serais étonné qu'on vive ça une deuxième fois.
Mais la logique des choses voudrait que Duplantis soit champion et que la médaille, vu les conditions, la cheville de la Villeni, il se contenterait d'une médaille d'argent, une médaille de bronze. La Villeni serait tellement heureux.
Après, si la Villeni parvenait à décrocher le Graal, ce serait un des plus grands coups de l'histoire du sport français, assurément.
Ce que tu évoquais, Maxime, avec le fait qu'il soit vu dans l'avion et qu'il soit passé si proche de la porte, ça rendrait ça encore plus exceptionnel. Ce serait mythique.
Allez, on passe sur la finale du 200 mètres dames à 14h50. Ce sera le clou du spectacle de cette journée d'athlétisme. Bon, bah là, c'est pareil. L'histoire peut s'écrire avec Hélène Thompson-Hera qui peut réaliser un double doublé, parce qu'elle est déjà double championne olympique 100-200 à Rio. Elle pourrait de nouveau être championne. Elle a déjà gagné le 100 et doublé avec le 200. Vous y croyez, messieurs?
Là, oui, pour la victoire, c'est plus qu'y croire, je pense. C'est plutôt se demander comment ça pourrait lui échapper. Après, l'impression qu'elle a laissée en demi-finale avec un chrono canon qui plus est en relâchant un petit peu en fin de course. Après, moi, je méfie de ces impressions visuelles. On l'a assez souvent vu, des chronos très proches du record du monde sur du 100 ou du 200 mètres, où on se dit, mais il coupe l'effort à 5 ou 10 mètres, qu'est-ce que ce sera en finale? En finale, il ne coupe pas l'effort, mais il y a un peu de pression en plus, etc. Il y a autre chose. Et puis, ça, c'est vraiment que des centièmes qui s'échappent. C'est plus de l'impression visuelle qu'un chrono. Donc, je ne suis même pas sûr qu'elle fasse mieux en finale, en termes de temps. Par contre, je pense qu'elle sera une jambe au-dessus des autres et elle réussira ce double-double.
C'est ça. Est-ce qu'elle aura besoin finalement? Parce que là, en demi, si on reprend les chronos, elle a fait 21,66. Le deuxième meilleur chrono, c'est Christine Mboma à 21,97. C'est-à-dire 3 dixièmes de moins. Ça paraît jouer.
Non, mais en plus, pour revenir à ce que disait Simon sur les finales, c'est vrai que des fois, on se dit une demi-finale qui allait hyper vite, on se dit ça va aller encore plus vite. Mais bah, parce que des fois, justement, de se battre, alors ça a le double effet, je veux dire, de la bagarre, c'est de vous pousser à aller plus vite, mais parfois, peut-être de vous désunir un peu parce que justement, vous êtes dans cette bagarre-là et qu'au lieu d'être concentré sur votre ligne, vous avez quelqu'un à gauche ou quelqu'un à droite et il faut lutter avec ça et d'avoir un petit coup de regard, même s'il est, bon, il regarde jamais vraiment, mais un petit coup d'œil, bah, ça peut vous faire perdre un peu votre mécanique. Après, moi, quand j'ai vu 21,66, vous demandez s'il n'y a pas un bug parce que vous la voyez dérouler à partir de 15 mètres de l'arrivée, ça ralentit et 21,66, il faut rappeler que le record du monde, il date de 88, c'est 21,34. Griffith Joyner, il n'a jamais été approché ce record du monde. Alors, elle aurait continué jusqu'au bout, je ne sais pas si elle l'aurait battu, mais je suis à peu près certain qu'elle aurait réussi le deuxième meilleur temps de l'histoire, ce qui aurait été assez formidable. Et je pense que là, bon, évidemment, il y a le talent de la sprinteuse qui est énorme, qui peut réussir, comme tu l'as dit, le premier double-double de l'histoire des JO chez les femmes, 100-200, 100-200 en une Olympiade. Donc, mais quand même, avec la technologie et la piste, on n'en a pas encore beaucoup parlé de la piste de Tokyo, mais je pense que c'est une réussite, ça doit bien rebondir quand même.
Je pense qu'elle est rapide aussi, mais il faut aussi rappeler, à mon avis, qu'elle a déjà fait ce temps, 21,66.
Oui.
Ne serait-ce que pour contextualiser, parce que surtout après la finale du 100 mètres et Jacobs qui a explosé ses temps au fur et à mesure, elle, on n'est pas sur une performance semblable, au-delà du fait qu'elle soit déjà championne olympique, elle avait déjà couru à cette vitesse-là.
Mais ce qui serait sympa, c'est un peu le sprint féminin jamaïcain a vécu dans l'ombre, pas l'ombre relative, dans l'ombre du Usain Bolt. Et ils ont réussi, elle aussi, elle truste tout depuis 2008 et même 2004. Il y avait le 200 mètres qui avait été gagné par la jamaïcaine. Mais Shelly Ann Fraser-Pryce, c'était toujours un peu… Alors, c'est une immense star, évidemment, comparé à Bolt, ça ne fait pas le poids. Et ce qui serait sympa, là, c'est que justement, que ce soit elle qui gagne le 200 Thompson, bah, qu'on les juge à leur juste valeur, c'est-à-dire que c'est des championnes immenses et encore une fois, le double-double qui serait réalisé, ce serait formidable et qu'on fasse un peu plus de place justement au sprint féminin avec des championnes de cet acabit.
Je vous rappelle les horaires, messieurs, 5h20 pour le 400 mètres haies, 12h20 pour la perche et 14h50 pour la finale du 200 mètres dames. Les réveils sont réglés. Merci de votre...
Mon petit doute me dit qu'on en reparlera demain de tout ça.
Ben, on en parlera demain, on va essayer d'inviter Stéphane Caristan pour venir débriefer allez. Tout ça, ça serait pas mal.
Trois records du monde, allez hop.
Allez hop. Merci messieurs, je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter, à vous abonner également pour recevoir tous les jours en fin de journée le nouvel épisode. Merci messieurs, à très vite pour un nouvel épisode. Salut.
Salut.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.